Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce qui va être le dernier numéro de Métropolez-vous de la saison, puisque Radio Présence passe en grille d'été la semaine prochaine. L'été est enfin arrivé, même s'il a pris son temps pour s'installer. Voilà la promesse de belles balades au soleil, dans les rues, les jardins publics et les parcs, mais aussi sur les rives de la Garonne. Jusqu'alors, pour passer de l'une à l'autre, de la rive droite à la rive gauche et inversement, ne voyez aucune allusion à l'actualité politique dans mon propos. Pour passer de l'une à l'autre, donc, il fallait emprunter les ponts toulousains que nous connaissons tous. Et bien, depuis la semaine dernière, deux autres équipements permettent de traverser la Garonne à pied ou à vélo. Deux passerelles situées vers l'amont de Toulouse, au niveau de l'île du Ramier et des quartiers Empalo et Rapace. Elles ont été inaugurées vendredi par Jean-Luc Moudenc et sont donc pleinement fonctionnelles depuis. Comment ont-elles été conçues et construites? Comment s'intègrent-elles dans le paysage urbain? Que vont-elles apporter pour améliorer la circulation dans la ville rose et notamment pour les mobilités douces? Voilà les questions que nous allons aborder au cours de cette émission. Et pour répondre à ces questions, j'ai invité aujourd'hui François Chollet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie, le développement durable et la transition énergétique. Bonjour monsieur le vice-président, bienvenue à vous aussi et merci d'avoir accepté cet entretien.
Bonjour.
Petit rappel historique pour commencer si vous voulez bien, quand a été décidée la construction des passerelles de l'île du Ramier et quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de lancer ce double projet?
Alors en fait, l'idée remonte au début de ce qu'est le développement du Grand Parc Garonne. L'île du Ramier, ça fait partie d'un ensemble qui est le Grand Parc Garonne et qui s'étend sur plusieurs communes, depuis l'île du Ramier jusqu'à Naval, jusqu'à Brive-Lagnac, Beauzel et les communes de Laval. On est en 2014. En 2014, ce plan se développe et puis il y a quelques phases importantes qui vont amener au choix des passerelles. C'est d'abord une concertation de 2017 à 2020 qui permet d'amener sur la table des idées et qui conforte une volonté politique de créer un poumon vert au centre de Toulouse et de transformer l'île du Ramier, d'en faire un lieu de détente, un lieu de nature. Et donc derrière, cette notion de mobilité qui doit changer, l'île du Ramier doit changer parce qu'il y a probablement trop de voitures, pas assez de vélos et de piétons actuellement, et c'est l'objectif qu'ont souhaité les habitants et qui est réalisé à travers ces passerelles. Ces passerelles, elles ont été choisies, en fait il y a 4 passerelles qui sont programmées, il y en a 2 qui sont réalisées, les 2 autres qui seront réalisées plus tard, ont pour objectif de relier ce poumon vert au quartier adjacent de façon douce, c'est-à-dire à travers le vélo et les piétons.
Pourquoi vous avez retenu les emplacements Empalo et Rapace pour relier la rive gauche à la rive droite de la Garonne via ces 2 passerelles?
Alors en fait, ça aussi, ça fait partie des concertations qui ont été faites. Ce sont des liens de quartier. Le quartier Empalo en particulier, qui de ce fait, grâce à cette passerelle, la passerelle Anita Conti, aura accès directement à l'île. Et puis ensuite, l'autre quartier, c'est l'avenue de Muret, c'est à travers le passage Gastou que se fait l'accès à la passerelle, qui permet de relier le nord de l'île sur la rive gauche. Ceci s'intègre dans un plan cohérent de déplacement sur l'île et qui sera abouti complètement lorsque les 2 autres passerelles seront mises en place au cours du prochain mandat. Et ça veut dire que ce qui a également présidé à la conception de ce que va être l'île du Ramier, c'est le retour à ce qu'elle était avant. Nous sommes entourés d'une agence d'urbanistes paysagistes, qui est l'agence Terre, et que je remercie d'ailleurs pour l'aide qu'elle nous a apportée dans cette conception et qui nous a permis de faire référence à ce qu'était l'île du Ramier avant, au début du XXe siècle, et que nous allons retrouver à la fois dans ces cheminements et dans le tracé des différentes allées qui permettront de relier les points et les autres.
Alors, lorsqu'on veut construire des passerelles, il faut choisir des architectes, il faut choisir des sociétés de construction. Comment vous les avez donc choisis? Qui sont ceux qui ont construit ces passerelles?
Alors, c'est un choix qui est réglementé, qui se fait sur la base d'une procédure de marché de travaux en conception-réalisation. Donc, pour chaque passerelle, 3 candidats ont été sélectionnés après un appel à candidature. Ils ont remis un avant-projet et après une phase d'expertise technique par les services de la métropole, ces projets ont été présentés à un comité d'élus qui a choisi, parmi les 3 candidats de chacun des côtés, le candidat qui lui paraissait le meilleur.
Et donc, vous avez choisi quelle société ?
Alors, pour Rapace, ce sont des groupements. C'est le mandataire Eiffage, les architectes Grimshaw, le BET Ingerop, les entreprises, c'est Eiffage en particulier qui est derrière ce projet. Pour Ampalo, c'est un GTM Sud-Ouest, c'est le groupe Vinci, en fait, avec des architectes Lavigne Chéron, BET Ingénierie, BETEM, APUC, les entreprises GTM en particulier, et Matière, dont le président était présent sur le site au moment de l'inauguration.
Qu'est-ce que vous avez donné comme contrainte, notamment, je pense, au niveau environnemental, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, évidemment, c'est très important dès qu'on lance la moindre construction sur les matériaux utilisés et puis sur la préservation de la Garonne et de sa faune.
C'est compliqué de résumer 150 pages de cahier des charges en 2 minutes, mais globalement quand même, de façon très synthétique, on peut dire que les enjeux étaient les suivants. Il y a des enjeux de mobilité, on vient d'en parler, c'est les passerelles, mais des enjeux écologiques très forts avec la préservation des berges, préservation du biotope. Il y avait des prescriptions architecturales et paysagères pour que ces passerelles soient intégrées au maximum dans le site. Et puis il y a aussi des prescriptions techniques pour un ouvrage durable, confortable, sécurisé, respectueux de son environnement, avec un bilan carbone minimal et puis avec une maintenance facilitée.
Le financement, vous avez eu, j'allais dire la chance, c'est pas une chance parce qu'il faut faire des démarches pour ça, d'avoir des financements notamment de l'Europe.
Oui, effectivement, donc chacune de ces passerelles coûte pour l'une 12 millions d'euros à peu près, l'autre un peu moins, 11 millions et demi. Et c'est vrai qu'il y a eu des cofinancements d'État et aussi cofinancements de l'Europe à hauteur de 3,4 millions d'euros et 4 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus du quart, entre le quart et le tiers du financement. Et ce qui était effectivement très appréciable, et d'ailleurs juste un mot à ce sujet, puisque nous sommes juste après les élections européennes et que l'Europe est parfois décriée, et si ce n'est vilipendée, ben je pense que dans ce cas précis, l'Europe a été au rendez-vous.
Et puis il y a eu une aide de l'État aussi pour chacune.
Alors effectivement, il y a eu une aide de l'État qui est de 800 000 euros d'un côté et 880 000 euros de l'autre.
La passerelle Rapace a été baptisée Robert Poujade, celle d'Ampalo Anita Conti. Qui étaient ces personnalités? Parce que moi, j'avoue, je n'y connaissais pas. Et pourquoi ont-elles été retenues pour les noms des passerelles?
Robert Poujade a été le premier ministre de l'écologie. Il a été le premier homme politique à avoir été nommé ministre de la protection de la nature et de l'environnement. C'était le titre à l'époque par le président Pompidou. Dans les années 70, il est resté 4 ans à ce poste-là. C'est un ancien maire de Dijon. Il a été maire de Dijon pendant des années. Et c'est un homme qui a mis en place une série de normes pour lutter contre les nuisances provoquées par des industries. Il a instauré les premiers contrôles de la qualité de l'air. Et donc, il a joué un rôle important. Et on s'est inspiré d'ailleurs dans ce choix de courriers qu'on a retrouvés du président Pompidou qui fustigeait sa haute administration. Il était gré du développement qu'elle était à même d'amener, mais à qui il reprochait de ravager la nature. Et je crois que c'est les mots exacts qu'il mettait dans certains de ses courriers.
Et donc Anita Conti, alors c'est une océanographe, et ce serait, si j'ai bien lu, la première océanographe française.
Alors effectivement, c'est un clin d'œil justement à une personne qui a été très tôt une défenseuse de la nature, des océans en particulier. Très tôt, elle a souligné tous les excès de la pêche de masse.
Oui, la surpêche industrielle.
Et à un moment où c'était vraiment inaudible, j'allais dire, et incompris. Elle a été vraiment précurseur en la matière, et c'est la raison pour laquelle, dans ce cadre-là, d'une passerelle au-dessus d'un biotope particulier, il nous a paru intéressant d'appeler la passerelle d'Ampalo Anita Conti.
Et bien voilà pour la petite histoire qui a mené à la construction de ces deux passerelles et à leur donner les noms d'Anita Conti et Robert Poujade. Dans quelques minutes, nous allons nous intéresser à leurs caractéristiques techniques et à ce qu'elles vont apporter aux mobilités à Toulouse. Dans l'immédiat, nous allons retrouver Corinne Saint-Félix pour son habituel flash d'information métropolitaine. Métropole et vous, l'actu.
Toulouse Métropole et Tisséo souhaitent compléter le dossier de candidature au CERM, le Service Express Régional Métropolitain. Ce dossier a été officiellement proposé au gouvernement en mars dernier déjà. Il prévoyait un coût d'investissement du volet ferroviaire de 4,1 milliards d'euros. Toulouse Métropole souhaite désormais consolider ce dossier en estimant les coûts, cette fois des opérations non ferroviaire. Ces infrastructures doivent aussi permettre de développer l'intermodalité et comprend les pôles d'échange des gares, les connexions urbaines ou encore par exemple les aménagements en faveur du développement de la pratique du vélo. La facture s'élèverait à 426 millions d'euros sur le territoire de Toulouse Métropole, auxquels s'ajoutent les besoins des autres EPCI évalués à 127 millions d'euros, soit un total de 553 millions d'euros. Toulouse Métropole et Tisséo souhaitent maintenant partager ces propositions avec leurs différents partenaires. À l'approche des JO et du Tour de France, le temps est définitivement à l'heure du sport. Plusieurs événements sportifs ont accompagné ce mois de juin, il en reste quelques-uns. Ce week-end, l'Open Plus 3 contre 3 de Toulouse regroupe les meilleures équipes de basket à la course au point pour se qualifier à l'Open de France. L'événement rassemble petits et grands autour du basket et de la culture urbaine avec des animations, stands de sneakers, performeurs de breakdance, skate et graphes. Rendez-vous sur le parvis du stadium du 28 au 30 juin. L'entrée est gratuite. Et en rugby, l'antre du stade toulousain accueillera 3 rencontres de rugby à 13. Ce sera samedi 29 juin à partir de 15h30. Le 13 de France féminin et masculin affronteront leur homologue anglais, suivi de la rencontre Toulouse Olympique contre Featherstone au stade Ernest Vallon de Toulouse. Et on espère aussi voir arriver le bouclier de Brennus dans les bras des joueurs du stade toulousain. Finissons cette saison en musique avec le retour du Festival de Toulouse qui se tient du 29 juin au 13 juillet. Pour cette édition 2024, le festival promet des moments vibrants avec des créations sur mesure conçues avec les artistes à la croisée des musiques, du classique, du jazz, du pop, du blues, mais aussi du cinéma et de la littérature. Les airs dans les rues de Toulouse vibreront sur des notes napolitaines, américaines ou balkaniques. Des airs bienvenus dans une ville reconnue par l'UNESCO Ville des Musiques. Le festival se tiendra dans plusieurs lieux, l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le Casino Théâtre Barrière, le Théâtre du Capitole ou encore le Théâtre de la Cité. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bel été.
Eh bien, merci Corinne Saint-Félix, à qui je souhaite également un bel été et de bonnes vacances en espérant que ce sera bientôt pour elle. François Cholet, vous voulez peut-être réagir à l'une ou l'autre des informations de ce flash?
Juste pour dire que le service express régional métropolitain mûrit et que le Toulouse Métropole et son président tiennent la place qui est la leur et comme ils l'ont toujours fait. Je rappellerai que c'est des choses qui ont été anticipées sur la ligne C du métro qui est en cours de construction. Les Toulousains l'ont noté. 5 gares sont des gares intermodales avec le rail. Et ceci est un élément de connexion très important. Donc il reste maintenant à apprécier les coûts, les fonctionnalités, les gains en matière de déplacement. Mais c'est clair que les déplacements sont au cœur de nos préoccupations pour les années qui viennent.
Vous voulez peut-être aussi réagir à la deuxième information.
Un petit clin d'œil pour vendredi soir, où je ne doute pas que le stade toulousain sera champion de France une autre fois avec un doublé à la clé.
Un doublé Coupe d'Europe, bouclier de Brennus. Effectivement, même le Stade Toulousain n'a pas réalisé si souvent que ça, donc ce sera encore une performance exceptionnelle. Merci pour ces réactions à l'actualité métropolitaine. Nous revenons tout de suite à notre sujet du jour, les passerelles de l'île du Ramier.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec François Cholet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie, le développement durable et la transition énergétique. J'évoquais il y a quelques minutes les caractéristiques des passerelles de l'île du Ramier. Quels sont les principes de conception et les particularités techniques de ces deux ouvrages? On peut déjà visuellement se faire une petite idée. Hein.
Alors ce qui caractérise ces deux passerelles, c'est qu'elles enjambent la Garonne sans qu'il y ait de piliers au sein du fleuve. Et ça, c'était un élément extrêmement important qui nous permet de préserver le biotope et de ne pas perturber le milieu aquatique. C'était important. Ensuite, donc, l'aspect esthétique y gagne. L'intégration dans le paysage est justement bien plus importante grâce à ceci. Donc elles ont une portée importante, 150 mètres à peu près la même portée l'une et l'autre. Mais c'est, il faut le dire, une prouesse technique et technologique qui a peu d'égal. Et vous remarquerez que sur le territoire national, il y a peu de passerelles développé.
Oui, c'est pas quelque chose qu'on voit sur.
Non, de cette manière.
En tout cas, sur un fleuve de cette largeur, oui, c'est rare.
Donc, c'est le tablier métallique qui fait la passerelle est soutenu par des câbles. Et vous le voyez d'un côté et de l'autre, qui sont issus de la tête d'un pylône ou de deux pylônes pour un cas ou l'autre, et qui permettent de maintenir et de supporter le poids de l'ouvrage. Donc, c'est la technique des haubanages qui a été mise en place. Et c'est une technique qui est éprouvée pour justement ces grandes portées.
Oui, alors rive gauche, la passerelle Robert Poujade, il y a ce pylône là qui est immense, parce qu'il fait 70 mètres de haut. À son point le plus haut, la passerelle, c'est trois fois la hauteur du Capitole, par exemple.
Ouais. C'est vrai que c'est un pylône. Alors, une des passerelles, effectivement, vous l'avez dit, il y a un pylône, l'autre a deux pylônes. Si on s'attarde un tout petit peu sur la passerelle Robert Poujade à un pylône, en fait, le choix d'un seul pylône a été fait par le site pour des raisons esthétiques, mais aussi techniques. C'était très compliqué d'installer un pylône du côté du quartier de l'avenue de Muret. Et donc, ça a renforcé quelque part la difficulté. Et lorsqu'on met qu'un pylône, on est obligé de le mettre plus haut. 70 mètres, vous l'avez dit, de façon à ce que le haubanage puisse aller jusque de l'autre côté de la rive et soutenir l'entièreté de la passerelle.
Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, l'ensemble des deux ouvrages, c'est 700 tonnes d'ouvrages métalliques et d'armature, et c'est plus lourd que 2 à 380 à vide.
Absolument, c'est considérable.
Qu'est-ce que vont apporter ces deux passerelles aux mobilités dans cette zone de la ville? Parce que c'est quand même le but premier.
Alors c'est clair qu'elles vont, et nous l'espérons, changer le rapport des Toulousains avec l'île du Ramier. Elles amènent de façon délibérée des voies piétons, cycles sur l'île du Ramier, sur lesquelles la voiture était jusqu'à maintenant prépondérante. Et c'est une vraie volonté politique que celle-ci, que de faire un espace nature. Et pour faire un espace nature, il faut que les mobilités soient adaptées à cet espace. Et c'est le cas avec ces passerelles. Les cyclistes pourront traverser, alors rejoindre les passerelles maintenant par des voies encore un peu détournées, tant que l'ensemble des travaux ne sont pas réalisés, mais qui seront connectés d'une manière très, très directe à travers ces voies douces d'un côté du fleuve, de l'autre côté du fleuve et sur l'île du Ramier.
Donc les deux passerelles sont exclusivement dédiées aux circulations à pied et à vélo, avec des voies bien séparées et marquées au sol, hein.
Absolument. Les voies sont séparées, elles font 5 mètres de large, il y a 2,5 mètres pour les piétons, 2,5 mètres pour les vélos tout le long. Je rajoute qu'il y a les personnes à mobilité réduite pouvant y accéder, ça a été prévu d'un côté comme de l'autre.
Oui, parce qu'il y a des rampes d'accès qui sont adaptées justement aux personnes à mobilité réduite.
Absolument.
Ça a été pensé dès le départ.
Absolument, ça a été intégré dès le départ.
Alors, vous l'avez annoncé, il va y avoir la construction de deux autres passerelles par la suite. Où vont-elles être situées, celles-ci, et quand est prévu le début des chantiers?
L'une d'entre elles sera située au regard du conseil régional. Elle arrivera sur ce qui est encore la déchetterie de Banlève, là, au nord de l'île. Et puis l'autre connectera la partie basse du TUC au quartier Croix-de-Pierre. Elles seront mises en place au cours du prochain mandat, c'est-à-dire entre 2026 et 2030.
Également passerelle, piéton, cycliste.
Ah, c'est le même, oui.
Avec le même objectif, diminuer la place de la voiture.
Même objectif, conforter ce profil de l'île, ce profil nature de l'île, ce profil détente et ce profil mode de transport doux.
Est-ce qu'on le sait déjà, les mêmes architectes qui mèneront ces futurs chantiers ou est-ce qu'il va y avoir un nouvel appel d'offres, un nouvel appel à candidature?
Non, il y aura un autre appel d'offres, donc ce n'est pas forcément les mêmes architectes. Ça se déroulera de la même manière, c'est avec un marché, là, c'est une sélection de candidats. Une appréciation technique des propositions et puis aussi un choix par les élus in fine.
Donc début après 2026, donc après la fin du mandat actuel, ouais. Et ça pourrait mener à une inauguration à quel horizon?
Horizon 2030, disons.
2030, donc les troisième et quatrième passerelles devraient être ouvertes au public en dehors de ces chantiers des passerelles. Où en est aujourd'hui le projet global de l'île du Ramier?
Alors d'ici la fin du mandat, donc d'ici 2026, le parc urbain qui est situé au nord de la piscine Nakache, qui est encore en travaux, que l'on voit quand on traverse l'île actuellement, sera livré. Et je pense qu'il sera livré au public à l'automne 2025. Donc là, c'est le fruit de la renaturation propre de l'île avec... toutes les études que nous avons faites sur cette renaturation spontanée, cette renaturation épaulée ici. Les travaux sont en cours, les voiries sont faites, les cheminements sont en train d'être dessinés et les plantations se feront à l'automne. et cet hiver, de façon à ce que tout ceci puisse être livré en 2025. Parallèlement, le hall 3, qui est à proximité de ce parc, sera refait d'ici 2025. Il sera réaménagé, il sera destiné aux sports urbains et une activité culturelle aussi, très vraisemblablement. Puis enfin, je voulais souligner que le hall 9 va être reconfiguré en une déchetterie à vocation pédagogique. Et ça mérite juste un tout petit mot, c'est que la déchetterie, ça sert à amener ses déchets, mais ça sert aussi à prendre des informations sur la façon de récupérer.
Sur le recyclage.
Sur le recyclage, sur la façon de réparer aussi, parce que ce qu'on jette est parfois réparable. Et donc, l'orientation de cette déchetterie, c'est ça. C'est, certes, on élimine les déchets, mais on recycle et on répare.
Alors, j'ai vu qu'à l'horizon 2025, ce qui est prévu aussi, c'est un kiosque à musique.
Alors ça, c'est sur le grand parc urbain. Effectivement, il y a deux choses qui sont prévues. Il y a un kiosque à musique, effectivement, qui sera au sein du grand parc. Puis il y a aussi un espace de jeu pour enfants qui a été dessiné, qui a la forme d'une volière, on dirait une volière géante qui fait 15 mètres de haut et qui sera un point, j'allais dire, un peu central de ce parc public et destiné aux enfants.
Donc la finalisation du projet Île du Ramier, c'est quel horizon? C'est la fin du mandat ou il y aura encore des choses qui se feront? Bon, il n'est pas très long, on le sait, mais est-ce qu'il y aura encore des choses qui se feront sur l'aire actuelle?
Alors l'aménagement de la partie nord aura bien avancé à la fin du mandat. Il restera la rotonde à aménager, il restera deux passerelles, on l'a souligné, à réaliser après, mais d'une manière générale, petit à petit, le projet prend forme et d'ici la fin du mandat, les Toulousains auront une bonne idée de ce que sera l'île de Ramier in fine.
Ce Central Park toulousain, c'est comme ça que nous était présenté le projet au départ.
Oui, je ne sais pas si c'est un Central Park, mais en tout cas, je pense que c'est une expérience de retour à la nature, de renaturation qui est assez exceptionnelle, qui nous a permis d'apprendre, nous, et qui nous a permis aussi d'être à l'écoute des habitants et des souhaits des Toulousains.
Oui, parce que beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de ce projet l'ont été dans le cadre de concertation.
Absolument, de concertation, de partenariat avec le milieu associatif, avec les entreprises, et qui nous ont permis effectivement d'avancer. C'est toute la déconstruction, de, par exemple, du parc des expositions. Fête école, nous avons maintenant plus de 50 projets en cours à Toulouse dans lesquels ce processus de déconstruction, avec la récupération de plus de 95% des matériaux, se fait.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand merci François Chollet d'en avoir été l'invité et de nous avoir présenté dans le détail les passerelles Robert Poujade et Anita Conti récemment inaugurées et qui relient désormais la rive gauche à la rive droite de la Garonne au niveau de l'île du Ramier et des quartiers Rapasse et Empalo. Il y a une description précise des deux ouvrages sur le site web de Toulouse Métropole www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous maintenant à la rentrée début septembre. Bon week-end à tous. Je vous souhaite un bel été et d'excellentes vacances.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.